toute cette semaine, nous posons à nos invités cette question de l'après, penser l'après. Aujourd'hui, avec la philosophe Corinne Pelluchon, comment réparer le monde? Elle est professeure d'éthique et de philosophie politique à l'université Gustave Eiffel, ex-Paris-Est Marne-la-Vallée, membre du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, créée par Nicolas Hulot. Elle publie aujourd'hui « Réparons le monde, humain, animaux, nature » dans la petite bibliothèque des éditions Rivage Poche. Dans ce dernier ouvrage, elle appelle à se tourner vers un modèle de développement écologiquement soutenable et plus juste, à opérer une transition seule à même, selon elle, d'ouvrir un horizon d'espérance. Bonjour à vous, Corinne Pelluchon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comment ressortez-vous de cette période très particulière de crise sanitaire? Avons-nous vécu dans une période de confinement déjà des corps et des esprits pour vous qui êtes philosophe, ou est-ce que vous avez senti un élan, des idées nouvelles frémir aussi durant ces dernières semaines?
Alors, chacun a vécu cela à sa manière, hein, selon les circonstances, mais j'ai senti quand même, effectivement, une effervescence d'idées et surtout une sensibilité des personnes à des questions importantes que moi, qui sont importantes pour moi depuis longtemps, la transition écologique, le rapport aux animaux, y compris aux animaux sauvages, la santé et la justice. Donc, la question d'un modèle de développement devenu irrationnel et qui nous expose à des crises sanitaires, écologiques, sociales gravissimes. Et voilà, donc j'ai senti cette sensibilité et je crois que c'est vraiment important et qu'il est aussi important de ne pas pointer seulement les oppositions entre les différentes propositions qui existent, mais de trouver des pistes communes, car on ne pourra pas avancer concrètement sur ces sujets difficiles qui opposent des enjeux économiques majeurs, qui opposent des représentations divergentes. On ne pourra pas avancer sans une certaine paix, ce qui ne veut pas dire d'effacer les conflits. La conflictualité en démocratie, elle est essentielle, mais il faut trouver des pistes communes et vraiment pour avancer. Sinon, ce sera le retour à l'ancien monde, ce sera le triomphe des lobbies et ça, c'est vraiment catastrophique.
Ce modèle de développement débridé, outrancier, diraient certains, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec ce virus, cette crise sanitaire, on en paye le prix sans aller dans une idée de punition, sans se référer à quelques notions divines? Est-ce que, comme certains, et c'est notamment une question qui a été abordée dans les pages du journal Le Monde par Philippe Descola, l'anthropologue, cette idée que nous sommes devenus des virus pour la planète et que peut-être nous sommes aussi en partie la cause de ce qui nous arrive?
Alors moi je dirais pas que nous sommes des virus pour la planète, malgré toute l'admiration que j'ai pour Philippe Descola. L'humain est capable du meilleur et du pire, donc voilà. La question d'un modèle de développement aberrant, c'est clair, ça fait longtemps. Un modèle déshumanisant, fondé sur un productivisme, une fuite en avant, tout cela. On a aujourd'hui quand même l'occasion, précisément parce que la société civile est consciente des problèmes, on a l'occasion de mettre en œuvre des changements. La transition écologique, c'est un mot qui a sa beauté. Transition, ça veut dire qu'il y a un horizon, qu'il y a un processus qui sera adapté aux milieux géographiques et sociaux, aux êtres, qui sera donc contextualisé, mais il y a quand même des changements structurels à mettre en place au niveau de la production, des modes de production, de la transformation de l'agriculture, de réduire aussi dans sa consommation les modes de vie énergivores, de réduire la consommation de produits animaliers, mettre en place une économie circulaire. Il y a tout un tas de rapports qui existent depuis une dizaine d'années, qui sont chiffrés, faisables, qui montrent que c'est possible. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a vraiment cet écart entre la théorie et la pratique qui m'avait inspiré le livre de 2018, Éthique de la considération, hein, où les personnes, les individus sont conscients des problèmes, mais, et les gouvernants aussi, je pense, mais évidemment, beaucoup ne mettent pas en place les changements dans leurs habitudes de consommation qui leur permettraient justement d'être des acteurs de la transition écologique. Et au niveau du gouvernement, ou des gouvernements, pardon, eh bien, on était encore dans un schéma productiviste, extractiviste, et voilà. Du coup, l'écologie n'était pas au cœur d'une restructuration d'un projet national et européen. Aujourd'hui, elle a peut-être l'occasion de l'être. à condition qu'on comprenne l'écologie dans sa profondeur, comme étant effectivement quelque chose, enfin, l'habitation de la Terre, c'est-à-dire qu'elle y a une dimension de défi climatique, de transition énergétique, mais il y a aussi une réflexion sur la réorganisation des activités, du travail, de l'économie mise au service des vivants, et puis il y a cette dimension mentale de l'écologie qui questionne nos valeurs, ce qui a du sens, la manière aussi dont on entrevoit sa place par rapport aux autres vivants. Donc là, je crois qu'on a l'occasion de penser de manière globale des sujets qui souvent sont considérés comme étant différents, voire rivaux. La question animale, le rapport aux animaux domestiques, l'élevage, le rapport aux animaux sauvages, dont on voit bien que l'interaction aberrante avec les animaux sauvages se paye. La question de la santé, la question de la justice sociale, la crise des gilets jaunes, c'était quand même ce problème-là qui avait été éclipsé. Et la question de l'environnement, qui concerne pas seulement les écosystèmes, les arbres, mais qui est aussi vraiment l'occasion de repenser son habitation de la Terre et sa cohabitation avec les autres, voire les autres espèces. Et donc ça, c'est vraiment... Et ça s'appuie sur une réflexion sur la condition humaine. Nous ne sommes pas seulement des libertés, nous sommes des libertés, mais nous avons cette matérialité de notre existence, cette dépendance à l'égard des écosystèmes, cette vulnérabilité et interdépendance entre nous qui implique que l'écologie, la cause animale, le souci pour les générations futures, eh bien, soit des finalités du politique et s'installe au cœur de l'éthique et de la politique. Et donc, ça, c'est vraiment un projet qui aussi est un projet d'émancipation, parce que ça suppose de s'affranchir de représentations dualiste, nature-culture opposée, de schémas un petit peu binaires, et ça suppose aussi que cette transition ne demande pas moins de liberté, mais plus de liberté, mais une liberté investie, une liberté responsable.
Pour la philosophe Cynthia Fleury, on est entré dans cette époque du care, en tout cas elle l'espère, le care, le soin, ce temps peut-être qui est en train de s'ouvrir. On a vu l'importance ces dernières semaines de cette notion à revaloriser, elle aussi, parce qu'elle a été pas mal abîmée ces dernières années, dans nos sociétés, en tout cas minorée. Abîmée, c'est aussi le terme qu'on pourrait appliquer, que vous appliquez à ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, d'où cette idée de réparation, qui plus que la réorganisation fait elle aussi appel à cette notion de soin. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ce mot de réparation et que vous avez donné au titre de ce recueil d'articles, de chroniques « Réparons le monde ».
Alors, réparons, j'ai utilisé, je me suis inspirée de la Kabbale lourianique du XVIe siècle qui a, par l'intermédiaire du Gaillon de Vilna, influencé au XVIIIe siècle, Lévinas et d'autres. En tout cas, la Kabbale, Tikkun Olam, c'est l'idée que d'emblée, après la création, eh bien, il y a un chaos, l'unité brisée. Et c'était part, et donc le rapport à la vérité que nous avons est toujours limité. Et moi, ça m'inspirait, si vous voulez, comme une méthode, une attitude. C'est-à-dire que la réparation du monde, ce n'est pas recoller les morceaux, ce n'est pas non plus penser un grand soir où en claquant des doigts il y aurait une rupture entre le présent et le passé. Moi je suis vraiment dans cette réflexion pour tisser des liens entre les générations, le passé et le présent, voire l'avenir. Mais c'est l'idée aussi, c'est un terme à la fois modeste et ambitieux, c'est l'idée de prendre les choses une à une pour voir ce qu'on garde et ce qu'on change. Donc c'est préparer l'avenir. Et moi, c'était vraiment l'idée qu'il ne s'agit pas seulement d'éviter le chaos. J'avais la préscience d'un certain chaos, pas lié à la pandémie, je n'avais pas du tout deviné, mais d'un chaos lié aussi à l'état social du pays, qui n'était pas très paisible. Évidemment, quand on travaille sur l'écologie, on s'attend quand même à quelques problèmes, à quelques effondrements, sans savoir quand ils se produiront. Mais l'idée, c'était, penser plus tard, il faudra bien que quand on s'agira de reconstruire le monde, la société, la démocratie, les personnes, individuellement et collectivement, aient des outils théoriques et des pistes communes, leur donnant la capacité et le désir de mettre en place cette transition que je pense nécessaire et irréversible. Et voilà. Donc, du coup, moi, c'était, curieusement, un recueil d'articles que j'avais fait pour, en pensant à plus tard, en pensant à qu'est-ce qu'on peut faire, mais dans le long terme et en dehors des oppositions binaires et parfois des scènes médiatiques qui orchestrent ce chaos.
cohabiter, c'est un mot qu'on entend beaucoup et qu'on retrouve dans cette succession d'articles de vous, Corinne Pelluchon, un mot qui n'est pas nouveau mais qui prend un sens forcément différent aussi aujourd'hui. Quelle question pose cette idée de cohabitation, voire de coévolution? Je vous propose d'écouter le mot utilisé aussi par le philosophe Baptiste Morisot dans son dernier essai « Manière d'être vivant » chez Actes Sud.
La raison toute simple pour laquelle on est tenu de décloisonner, c'est parce que dès lors qu'on restitue son épaisseur historique à notre histoire, à notre identité, il apparaît que nous sommes tous le produit de coévolution. C'est-à-dire que personne n'est un empire dans un empire. Toutes les formes de vie qui partagent un espace coévoluent ensemble en entrant dans des relations complexes et riches. Et on peut pas y échapper. Justement, c'est le mythe moderne que d'avoir cru qu'on pouvait s'auto-extraire de la nature pour constituer des communautés démocratiques qui allaient se libérer des contraintes naturelles. La coévolution et les interdépendances, c'est-à-dire être pris ensemble dans une communauté d'altérité avec laquelle il va falloir apprendre à vivre, c'est le nom des milieux depuis 4 milliards d'années d'évolution. Et en ce sens-là, on a toutes les raisons du monde d'essayer de s'y insérer à nouveau.
Voilà, nous sommes tous le produit de coévolution, dit le philosophe Baptiste Morisot. Aujourd'hui, on nous parle plutôt d'apprendre à vivre ou à cohabiter avec un virus. Faut-il se dire qu'on a aussi une histoire commune, une identité commune ?
Avec le virus ? Oui, mais enfin, moi, j'en ferai pas un copain, hein, je vous le dis tout de suite. Je crois que ce qui est fondamental, c'est cette idée de l'habitation de la Terre. Ça suppose de prendre au sérieux notre localisation, notre pesanteur. Nous ne sommes jamais hors sol, nous habitons quelque part, nous utilisons des ressources, que moi j'appelle des nourritures, pour souligner aussi leur dimension esthétique. Mais en tout cas, nous ne sommes pas seulement projet, liberté, penser. Nous avons cette pesanteur du corps, cette matérialité de l'existence. Vivre, c'est pas seulement vivre dans le monde, être jeté là, c'est vivre avec les autres et le monde. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'existence d'emblée nous met en contact avec d'autres vivants et d'autres êtres qui subiront les conséquences de nos modes de consommation, etc. Ce qui fait que l'éthique et la justice s'invitent au cœur de notre existence, dans nos actes les plus quotidiens. Donc ça, c'est vraiment, je crois que c'est important. Et aussi, comme le soulignait Baptiste Morisot, il y a l'idée d'apprendre à cohabiter avec des êtres très différents de nous. Et parfois qu'on ne comprend pas vraiment, ou avec lesquels nous n'avons pas vocation à partager notre repas. Nous n'allons pas vivre avec des ours, etc. Donc il y a l'idée de respecter aussi l'habitat des autres vivants, et puis cette idée d'altérité, d'hétérogénéité des formes de vie. Ça, c'est vraiment important. Le défi majeur, peut-être, de l'humain, notamment aujourd'hui, c'est d'apprendre à vivre avec celui qui est différent de lui, avec les autres, le plus autrui de tous les autrui, disait Lévi-Strauss en parlant des animaux, sans le mépriser, sans lui dénier tout droit exister selon ses normes propres. Et ça, ça demande non seulement de la diplomatie, mais ça demande justement
de la considération.
Ça demande de la considération.
Voilà, pour reprendre.
J'adore. Et de faire de la place aux autres. L'éthique, c'est une question de place. On le voit dans tous les domaines, avec les animaux, avec les réfugiés, avec voilà. Et ça, c'est. Il semblerait que l'humain ait un peu de mal à faire de la place à autrui au sein de son existence. Et ça, bon.
Est-ce qu'il a su vivre avec, cohabiter avec ces autres formes de vivant, la nature, les humains, les animaux, ce trio que vous réunissez aussi dans ce monde qu'il faudrait réparer aujourd'hui? Depuis quand cette cohérence perdue pour vous, Corinne Pelluchon?
Oh, je crois que l'humain a toujours un fond peut-être de destructivité, disait Freud, et moi j'ai un peu tendance à penser qu'il y a le mal existe, la tentation de la toute-puissance, de la domination, et une énigme, mais sans doute enracinée dans la condition humaine. Freud le disait, Kant aussi à sa manière. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il faut des normes, c'est peut-être pour ça que il faut justement qu'on ait philosophe politique, qu'on mette des limites à ce que les êtres peuvent faire. Mais il y a effectivement dans nos sociétés occidentales, en particulier après la révolution industrielle, il y a eu cette posture quand même de la domination, de l'exploitation illimitée de la nature, et peut-être aussi des autres vivants, assurément, avec l'industrialisation qui les exploite dans l'élevage industriel au mépris de leurs normes éthologiques et de leur subjectivité. Là, il y a quelque chose qui nous éloigne du modèle de l'intendant, qui était encore celui des chrétiens et même de Descartes, hein, qu'on voit souvent comme un bad boy, mais qui a encore cette idée de l'humain comme jardinier de Dieu. Hein. C'est vrai qu'avec la révolution industrielle, et puis avec cette idée que, mais à l'époque, au tout début de la révolution industrielle, on n'était pas 8 milliards et demi, que l'humain pouvait consommer et finalement que tout ce qui était bon pour sa conservation, eh bien, il n'y avait pas de limite assignée à son bon droit. La seule limite assignée à son bon droit d'utiliser tout ce qui est bon pour sa conservation, c'était l'existence et la liberté de l'eau. Humain, voire de son citoyen dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc là, on voit que les conditions démographiques, nos technologies et tout cela, eh bien, modifie complètement le contexte et quand on pense à la bombe atomique, qui quand même change totalement la manière dont on pense la technologie et le pouvoir technologique de l'humain qui nous échappe, cette autonomisation de la technique. Bon, on voit bien que nous ne pouvons pas seulement penser nous devons intégrer les conséquences à long terme de nos modes de vie, dans nos politiques, dans l'éthique, etc. Et ça demande un élargissement de notre perception du temps, de l'espace, puisque nous pouvons faire du mal à des êtres dont nous voyons pas le visage, qui sont trop nombreux. Et c'est très étrange parce que par exemple avec la bombe atomique, les dommages qui peuvent être infligés à d'autres êtres sont tels et le nombre d'individus qui périraient est tel qu'on peut à peine le percevoir. Il y a ce décalage entre ce qu'on sait et ce qu'on peut comprendre. Et je crois que ça, c'est vraiment, pour la question écologique, c'est ça qui explique que les êtres n'ont pas tout de suite, peut-être avant la crise du Covid, pris conscience des remaniements psychiques et des changements dans leur mode de vie qui étaient nécessaires. Parce que c'est vrai que le réchauffement climatique, ça semblait un peu loin. Et que penser aux générations futures, bon, ben, c'est pas le quotidien de chacun. Mais là, je crois qu'il y a cette interdépendance des êtres, cette mondialisation d'une pandémie qui peut-être change un petit peu la manière de penser ces actes quotidiens et de souligner cette interdépendance.
Oui, un sentiment d'une catastrophe imminente. En tout cas, elle n'était plus abstraite, lointaine, mais là. Et elle entrait dans notre quotidien. Toute crise, écrivez-vous dans l'avant-propos de cet ouvrage, Réparons le monde, Corinne Pelluchon, toute crise, qu'elle soit personnelle ou collective, qu'il soit question d'une maladie, d'un deuil, d'une dépression économique ou d'une guerre, est toujours l'expérience de la rupture de l'unité. Réparer le monde ne veut pas dire recoller les morceaux, comme lorsqu'on s'obstine à préserver une construction qui s'effondre, mais défendre la vie. Au nom de quoi, vous direz certains ?
Oh ben, la vie, ce n'est pas un bien absolu. Attention, moi, je suis socratique au sens où la liberté et le sens de la vie est importante. Néanmoins, défendre la vie, c'est-à-dire quand même, nous allons, depuis quelques décennies, avec ce modèle de développement, qui a quand même des contre-productivités, même sociales, qui impose aux animaux des souffrances intolérables, qui polluent, etc., nous allons dans le mur. Et du coup, il y a cette destruction, et je pense qu'il faut rétablir le sens de l'économie, la réorienter en la mettant au service des vivants, humains, en intégrant aussi les besoins des autres espèces, au lieu de la mettre au service de multinationales. Donc là, il y a vraiment cette idée, et puis parce que La vie n'est pas forcément aimée. Je parlais tout à l'heure de la destructivité de l'humain. Bon, on se souvient que Freud, c'est très énigmatique, mais dans 1920, quand au-delà du principe de plaisir, il parle de la pulsion de mort, hein, de cette espèce de tendance de chaque organisme même et de l'humain à vouloir retrouver un état antérieur, donc à vouloir aller vers finalement sa destruction, on se dit que il y a un peu ça chez l'humain. Donc comment lutter pour cela? Ben moi je pense qu'il faut rétablir, enfin réinvestir cette éros, hein, cette désir de vivre, ce sens de la beauté. Et moi j'ai insisté et j'insiste toujours sur ce qui peut donner aux personnes le désir de changer leur style de vie, de ce qui peut les motiver et leur redonner l'estime d'elles-mêmes afin qu'elles mettent d'elles-mêmes en place les changements parfois drastiques qui s'imposent, non seulement pour changer ses habitudes de consommation, avoir un mode de vie moins énergivore, plus respectueux des autres vivants, mais aussi s'activer, s'organiser ici et maintenant, là où elles sont, et avoir une action politique, un engagement en faveur du monde commun, qui n'est pas seulement sa vie personnelle, mais qui est liée aussi à la transmission aux générations futures d'un monde habitable.
Défendre la vie, c'est un projet politique ?
C'est un projet politique, mais alors c'est pas du biocentrisme, défendre chaque vivant, c'est vraiment un voilà. Et puis c'est prendre au sérieux justement le fait que non, ce n'est pas vrai que la vie soit toujours aimée et les vivants respectés, ça non.
France Culture, il est 13h15.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Invitée jusqu'à 13h30, la philosophe Corinne Peluchon, Réparons le monde, est un recueil d'articles parus notamment dans les revues Esprit et Cité, d'autres inédites, qui portent sur la transition écologique et décrivent la manière dont on peut apprendre à habiter cette terre, à cohabiter avec les autres, en sortant de la logique destructrice, comme vous l'écrivez Corinne Peluchon, qui nous conduit à la dévastation de la planète et à une crise sociale et politique majeure. Notre vulnérabilité et la matérialité de nos existences, comment cette période a-t-elle presque mis à l'épreuve hein, ces deux notions, ces deux dimensions de nos vies sur lesquelles vous travaillez depuis si longtemps ?
Oui, alors effectivement, moi j'ai développé une philosophie, voire une phénoménologie de la corporéité en insistant sur ces deux volets, hein, la vulnérabilité, la fragilité du corps, du psychisme. Capacité à être la susceptibilité à la blessure, vulnus, et puis aussi cette dimension de matérialité, le fait que nous sommes dépendants des écosystèmes, nous avons besoin de respirer, nous avons besoin d'espace, etc. Donc c'est un complément aux philosophies de la liberté qui ont été plutôt au cœur de l'existentialisme. Voilà. Alors c'est, la crise actuelle, mais c'est vrai qu'elle a peut-être ouvert les yeux de certaines personnes sur l'exposition des humains aux virus, aux maladies, à tout un tas de choses imprévisibles et à souligner le caractère relationnel de nos vies. Le fait que eh bien, nous ne sommes pas chacun dans notre coin comme ça, mais il y a une interdépendance. Et voilà, et cette dimension, l'écologie, fait partie de l'existence, c'est une condition de notre existence. Et ça, je crois que c'est au cœur vraiment, en tout cas pour moi, de tout mon travail, et ça a des conséquences au niveau de la manière dont on pense le politique et dont on pense l'éthique qui sont majeures, puisque si on prend au sérieux la matérialité de notre existence et la corporité, eh bien, le politique, le sujet est toujours relationnel, il vit deux choses, d'air et tout, et du coup, la protection de la biosphère, condition de notre existence, même un motif démoniste ou lié au plaisir attaché au fait que vivre, c'est pas survivre, c'est bien vivre. Et puis, le souci des générations futures, le rapport aux animaux avec lesquels on cohabite et qui subissent les conséquences de nos modes de vie, bien tout cela, ça devient des finalités du politique, des devoirs de l'État à côté de l'armature classique du contrat social, des droits de l'homme, la liberté entre nous, coexistence entre des libertés souvent rivales et réduction des inégalités iniques. Donc voilà, moi j'ai travaillé sur tout ça et là c'est vrai que ça a donné tout d'un coup un éclairage. Et moi encore une fois, je pense que évidemment, hein, c'est pas un mal pour un bien. Cette pandémie, c'est horrible, ça va entraîner une crise économique et qui dit crise économique dit beaucoup de misère et beaucoup d'angoisse et beaucoup de périls politiques qui peuvent être à l'horizon. Mais je dirais que nous sommes dans une période, nous sommes à la croisée des chemins. nous avons l'occasion de prendre une trajectoire nouvelle, à la fois dans nos vies, au niveau du remaniement psychique nécessaire qui s'exerce au niveau des représentations, mais aussi des émotions, de ce à quoi on accorde de la valeur, et aussi de nos affects, de ce qui nous pousse à agir, de ce qui devient important pour soi. Nous avons l'occasion de ce remaniement psychique et nous avons l'occasion au niveau économique et au niveau européen de mettre en place justement des mesures qui vont à la fois vers plus de coopération, de solidarité, et qui mettront en place cette transition écologique qui doit toujours, si on prend l'écologie au sens où j'en parle, être une transition solidaire et contextualisée. Donc voilà, alors que depuis quelque temps, on a l'impression que ou bien il y a des oppositions ou de la coercition, là on a l'occasion de travailler sur plusieurs terrains, à la fois la cause animale, l'écologie, la démocratie, mes trois grands sujets.
Et vous avez republié dans ce recueil un article sur la vieillesse ou l'amour du monde, tel que vous l'aviez titré et qu'on retrouve dans cet ensemble, Réparons le monde. Alors ça c'est intéressant aussi parce que vous racontez la vulnérabilité ou la méprise de la vulnérabilité dans le traitement du vieillissement par nos sociétés, par ces sociétés de la performance. Depuis le début de cette crise sanitaire, la vieillesse a été associée à la fragilité, plus de 65 ans, à confiner, à protéger, parfois malgré nous ou malgré eux. Comment cette crise peut nous aider à porter un regard différent ou en tout cas plus structuré sur cette question de la vieillesse et de la place, là encore, de la vieillesse et de la considération à lui apporter dans nos sociétés, puisque vous parlez d'interdépendance.
C'est-à-dire que souvent, on a une vision ambivalente de la vieillesse. C'est-à-dire, à la fois, on dit qu'il faut prendre soin des vieillards, mais on ne leur accorde pas souvent le droit de nous déranger, de participer au monde. Souvent, les personnes en situation de vulnérabilité sont... un peu vu comme des citoyens de second rang. Et moi, je montrais à la fois la grandeur de l'éthique du care dont on parlait tout à l'heure, le prendre soin, et peut-être ses limites quand il s'agit de passer de l'éthique à la justice, quand il s'agit pas seulement de prendre soin, mais de permettre aux personnes de participer d'une manière ou d'une autre au monde et de ne pas être seulement celles auxquelles on applique des lois, mais d'avoir leur mot à dire. Et je trouve aussi qu'il y a effectivement dans une société qui valorise tellement la performance, eh bien il est difficile quand on vieillit de ne pas intérioriser soi-même ces représentations de la vie réussie qui identifieraient autonomie, performance, maîtrise de soi et qui font que y compris les vieillards, parfois, se sentent de trop parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne collent pas aux standards de la vie réussie. Donc je trouve que s'interroger sur le vieillissement et la prise en compte, la considération envers les personnes âgées, ce n'est pas seulement des jolis mots où on parle de prendre soin, mais c'est aussi travailler, déconstruire de fond en comble ce que, en 2009, ça nous rajeunit pas, j'avais déjà appelé l'éthique de l'autonomie qui était, alors moi j'aime l'autonomie, mais qui était une méprise sur l'autonomie calquée sur la performance, l'autodétermination, alors que justement, tout travail sur la vulnérabilité invite pas seulement à la considérer comme une fragilité, mais à s'appuyer sur les promesses de vie demeurées intactes, sur les capacités restantes des grands vieillards, et puis à reconfigurer l'autonomie qui n'est pas seulement autosuffisance, et à penser la responsabilité. Donc je trouvais que voilà, donc j'avais choisi quelques articles, 7, et j'avais mis celui-ci, et finalement ça tombe un peu bien.
Il y a une vingtaine d'années, là aussi prémonitoire, un cinéaste japonais particulièrement préoccupé par la question environnementale et écologique, Hayao Miyazaki, sortait ce film annonciateur, Princesse Mononoke, au cinéma, où la question de la vulnérabilité est posée et en même temps sujette à un sursaut guerrier. On y revient.
Ils reviennent chaque nuit. Inlassablement, ils replantent des arbres pour que de nouveau la forêt recouvre la montagne. Ashitaka, reste et aide-moi à détruire l'esprit de la forêt.
Vous commettriez un tel crime? Vous tueriez le cœur même de la forêt?
Une fois les anciens dieux disparus, les monstres redeviendront ce qu'ils étaient, de simples animaux. Quand nous aurons rasé les forêts et chassé les meutes de loups, la montagne sera un havre de paix et d'abondance. Et la princesse Mononoke reprendra forme humaine.
La princesse Mononoke?
La princesse des esprits de la nature, des bêtes et des anciens dieux. une sauvageonne élevée par des loups et qui a juré ma mort.
Corinne Peluchon, extrait sonore de Princesse Mononoke de Miyazaki par les studios Ghibli. Ça nous permet peut-être d'évoquer ensemble les formes que peuvent revêtir cette transition écologique et les principales difficultés qui se posent à nous et qui s'opposent à ce changement, à projet politique, disiez-vous. Vous rappelez les quatre axes principaux à vos yeux de cette transition, la protection notamment des écosystèmes, la question de la santé, vous faites le lien entre les crises écologiques et les crises sanitaires, sur les questions de l'air, de l'eau, et puis la justice, réorganisation, disiez-vous tout à l'heure, du travail, de notre économie, penser le coût environnemental aussi de ces questions-là.
Et les animaux.
Je l'ai oublié, le quatrième, bien sûr, notre rapport aux animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques. L'écologie politique, c'est un projet d'émancipation qui peut, à vos yeux, ouvrir un horizon aussi d'espérance. Est-ce qu'il est transpartisan? On est là à la veille du second tour des élections municipales. Est-ce que cette question, elle est suffisamment prise en compte dans la campagne? Est-ce qu'elle est comprise par nos responsables politiques?
Ah, je ne sais pas. Je ne vais pas parler à leur place. Je crois que l'écologie, comme la cause animale, sont des questions universelles. Puisque ça fait partie de la condition humaine, ce sont non pas des valeurs mais des structures de l'existence, hein, mon travail forcément. Alors après, certains partis s'en emparent plus que d'autres, c'est clair. Il est clair aussi qu'il y a des obstacles majeurs à la prise en compte de la finitude de la biosphère et les résistances aux changements structurels qui peuvent être faits ou qui doivent être faits. Évidemment, il y en a beaucoup du côté de certains partis politiques qui sont encore dans le productivisme, le néolibéralisme, etc. Il est clair que sans être un marxiste chevronné, toute réflexion écologique impose de sortir du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, financier, et qui a colonisé notre imaginaire, qui a installé la compétition, là aussi au cœur des âmes, des psychismes, qui ravage pas seulement les sols, mais aussi les êtres, les relations, et qui conduit aussi à déstructurer, à détruire la démocratie. Donc je pense que là, vraiment, et là encore, il faut aussi penser en dehors de l'idéologie. Un philosophe, sa place n'est pas dans la distribution de bons points aux partis politiques. Il y en a certains, évidemment, qui n'ont pas de faveur, enfin, en tout cas, qui n'auraient pas ma faveur, hein. Mais moi, je n'aime pas l'extrémisme du tout. Donc, évidemment, l'extrême droite, voilà, c'est la démocratie doit faire son premier devoir, c'est d'empêcher le retour du fascisme. Donc, et du racisme, et tout ça. Bon. Mais, moi, je crois que vraiment, un des défis, c'est d'apporter à la question écologique et aux autres questions, hein, ces quatre piliers dont je parle, la transition écologique, d'un autre modèle de développement, lui apporter une réponse démocratique, qui suppose sans doute de décentrer la démocratie. Il y a vraiment rendre possible les expérimentations de tous ceux qui s'embrouilleraient par le monde, agriculteurs, éleveurs, qui font tout un tas de choses, qui initient des changements et sur lesquels on ne braque pas les projecteurs. Donc rendre possible ça pour que nos gouvernants arrivent à innover dans leurs réponses.
Mais c'est l'État qui sera un acteur central, qui sera moteur de cette transition, ou ce sont les individus?
Il y a les deux.
Parce que vous plaidez notamment pour une coopération accrue.
Ben, il y a les deux. Les individus, c'est essentiel. Parce que pour l'instant, moi, quand j'ai écrit ce livre, j'étais un petit peu déprimée, hein, quand j'ai remis ces rapports, ces articles, parce que je me disais qu'effectivement, ben, les États bougeaient pas beaucoup, quoi, sur cette question, sur la question animale, zéro pointé. Donc, du coup, j'étais un petit peu déprimée. Mais en revanche, j'étais sans arrêt pleine d'admiration à l'égard de tout un tas de personnes, pas forcément connues, justement, qui travaillaient, qui changeaient, qui initiaient des changements. Donc, il faut les deux. Il faut les individus, les collectivités, l'État et l'Europe.
Et cette idée de nouveau contrat social aussi à mettre en place. Merci beaucoup Corinne Peluchon d'être venue nous parler de Réparons le monde, humain, animaux, nature, ce monde d'après, nous aider à le penser en espérant qu'il ne ressemble pas furieusement à vous entendre en tout point, en tout cas au monde d'avant. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. Merci à Bruno Barada, Oriane Delacroix et Henri Leblanc à la programmation, Laura Dutèche-Pérez, Philomène Villard et Marceau Vassy à la préparation.